RFI TV5 Monde vous présente Afrique Press, Denise Epoté-Durand.
Bienvenue dans Afrique Press, l'émission débat RFI TV5 Monde consacrée à l'actualité africaine et internationale de la semaine. À mes côtés aujourd'hui, Hassan Diop de Radio France Internationale, Pascal Hérault de l'Opinion et Guy Milex Mbonzi de la Trompette, hebdomadaire congolais. Au sommaire, la République centrafricaine, alors que se préparent les échéances électorales devant mettre fin à 2 années de transition, le pays a été confronté à une vague de violence. De retour de New York, Catherine Samba-Panza a lancé un appel au calme et dénoncé une tentative de coup d'État. Ce climat d'insécurité reporte sine die la tenue du référendum sur la nouvelle constitution et les élections générales. Au Congo-Brazzaville, à 1 an de la fin du mandat de Denis Sassou Nguesso, l'opposition mobilisée contre la tenue d'un référendum, une consultation qui devrait permettre au président congolais de changer la constitution pour briguer un 3e mandat. Pour commencer, retour sur la journée du 26 septembre à Bangui avec le reportage de Guillaume Villadier.
Il y a encore quelques jours, on parlait de retour à la normale. Des musulmans commençaient à revenir dans le centre de Bangui. Les commerces avaient rouvert. La Centrafrique préparait tant bien que mal ses élections. Jusqu'à cette étincelle, samedi matin, le meurtre d'un taxi-moto dans le quartier musulman du PK5.
Nous ne savons pas ce qui se passe exactement. C'est un Tchadien qui a commis l'acte. Et maintenant, ils ont détruit le commissariat alors que nous préparons les élections.
Pour la première fois depuis plus d'un an, la capitale s'embrase. Des groupes de jeunes musulmans attaquent en représailles des zones chrétiennes. Les milices anti-Balaka ripostent. À nouveau des barricades, des pneus brûlés et des cadavres. Une 20aine de personnes sont tuées, peut-être 50, dit la Croix-Rouge. Les hôpitaux sont submergés de blessés, par balles ou à coups de machette.
Ce que j'ai vu dans les hôpitaux, nos frères ont été tués comme des bêtes. Ce que j'ai vu dans les hôpitaux, nos frères ont encore des balles dans leur chair. J'en appelle à ce que nous puissions dire, plus jamais ça.
Les appels au calme n'y changent rien. Bangui reste bloqué, plus aucun véhicule ne circule, à l'exception des blindés des forces internationales. Casque bleu de la MINUSCA et soldats français de Sangaris tentent de ramener le calme, mais on les accuse de laisser faire. Pire encore, d'avoir tiré et tué des manifestants. En voyage à New York pour l'Assemblée générale des Nations unies, la présidente Samba-Panza annonce son retour et promet des élections d'ici la fin de l'année. Une chose est sûre, elles n'auront pas lieu en octobre.
Le calme est revenu à Bangui après une semaine de violences qui ont fait 40 de morts et 200 blessés. Alors Hassan Diop, conflit religieux ou tentative de coup d'État, comme l'ont dénoncé Catherine Samba-Panza et Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies?
Je pense qu'il y a les deux. Il y a une instrumentalisation, là, apparemment, donc du communautarisme, puisque cette attaque, ce chauffeur de taxi musulman a été égorgé dans ce fameux quartier PK5, qui était, comme vous le savez, majoritairement un quartier musulman. Il y avait quelques 100 000 musulmans qui vivaient là, dans le centre-ville de Bangui, avant les événements que l'on connaît. Et donc, il y a effectivement à la fois une tentative de déstabilisation et une instrumentalisation du communautarisme, c'est-à-dire de la religion, pour évidemment mettre de l'huile sur le feu. Ce que l'on doit déplorer, c'est que cette flambée de violence a fait 40 de tués, vous l'avez dit. 30 000 personnes déplacées qui étaient revenues chez elles dans ce quartier ont rebroussé chemin. Donc le processus de normalisation, le processus de réconciliation
est en panne
et est menacé. Et ce n'est peut-être pas par hasard d'ailleurs que l'archevêque de Bangui se soit exprimé sur ce drame dont la majorité des victimes sont des musulmans. Et puis toujours sur le plan sécuritaire également, il faut constater que les forces internationales, que ce soit les casques bleus de l'ONU, que ce soit la force Sangaris et a fortiori les forces dites nationales centrafricaines, évidemment, ne maîtrisent pas la situation sécuritaire. Et c'est d'autant plus déplorable qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, les casques bleus, cette mission de l'ONU en Centrafrique, a plus tendance à dépenser de l'énergie pour s'expliquer sur des scandales sexuels que véritablement de démontrer qu'elle est là, cette mission, pour permettre à ce pays de redémarrer.
Pascal Hérault, ce qu'on a constaté également dans ces manifestations, c'est que les manifestants ont réclamé le départ de la présidente de la transition, Catherine Samba-Panza. Alors, quelle issue pour cette transition ?
Effectivement, ça fait partie des revendications. Changer de présidente à quelques semaines ou quelques mois des élections, c'est quand même un petit peu dangereux. Ça veut dire qu'il faut reprendre tout un processus avec une nouvelle équipe qui s'installe, de nouvelles personnes qui vont avoir la tâche d'organiser aussi les élections, de faire le travail avec la commission électorale. C'est un peu difficile. Ce qu'on peut dire, c'est que cette dernière crise montre que les maux de la Centrafrique n'ont pas de solution. C'est des crises récurrentes qu'on a eues dans ces derniers mois, sur fond de désintégration de l'État, de non-désarmement des milices, et aussi de problèmes économiques, de clivages sociaux. La priorité des observateurs, des analystes disent, est-ce que c'est pas d'aller à ces élections très rapidement, mais faisons déjà le travail de réconciliation et de désarmement de l'armée, parce que tant qu'on va rester dans cette situation, comment organiser un scrutin serein, cohérent, ouvert, inclusif et tout ça dans un tel climat de tension? Ça va être très difficile, d'autant qu'il y a des forces extérieures, et la présidente Catherine Samba-Panza l'a rappelé, qui depuis l'étranger ont leurs partisans. On sait très bien que l'ex-président Bozizé continue à avoir des relais sur les FACA, qui les mêmes FACA ont aussi leur entrée ou des liens avec les anti-Balaka. Donc la communauté internationale devrait faire vraiment attention à la manière dont on va gérer les prochaines semaines et on va organiser ces élections, parce que les risques de dérapage sont vraiment très élevés.
Kiminix Bonzi, Hassan Diop le rappelait tout à l'heure, à quoi servent les forces internationales?
Bon, mais je pense que l'erreur de la communauté internationale dans la crise centrafricaine, c'est notamment d'avoir laissé les milices armées jusqu'aujourd'hui. On aurait pu procéder à un désarmement complet et total des milices avant même d'engager un processus électoral. Sinon, ce problème, que ce soit Karim Mekassoua ou je ne sais qui succède à Catherine Samba-Panza, connaîtra la même insécurité. Donc il fallait d'abord procéder à un désarmement total et complet des milices avant d'engager le pays à un processus, dans un processus électoral.
Mais Hassan Diop, le financement de ce désarmement n'est toujours pas d'actualité.
Oui, c'est-à-dire que la communauté internationale s'est trompée d'agenda. Je veux dire, et qui dit agenda, se donner les moyens, y compris les financements. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le sentiment qui prévaut, c'est que la Centrafrique est oubliée. Elle sera d'autant plus oubliée que malheureusement, la présidente de la transition n'a pas pu s'exprimer à la tribune des Nations Unies, justement, pour mettre en lumière les difficultés qu'elle rencontre. Et je dois, par témoignage de la part de certaines sources, de dirigeants politiques de ce pays, il y avait eu des alertes précurseurs sur des tentatives de déstabilisation du processus de transition en Centrafrique. Et ceux qui sont quand même à l'origine de cette déstabilisation, la presse en a abondamment parlé, ce sont les groupuscules, les personnalités ou les dirigeants politiques qui n'ont pas accepté les résolutions de cette fameuse conférence de réconciliation nationale. Non seulement ils se sont mis hors jeu de cette conférence nationale de réconciliation, mais aujourd'hui ils se comportent en hors-la-loi. Donc il faut leur opposer la justice nationale, mais aussi la justice internationale.
On a vu il y a quelques semaines, Pascal Hérault, que malgré tout, une nouvelle constitution a été adoptée à la fois par le CNT et par la société civile. Un référendum devait d'ailleurs se tenir dans les prochains jours. Il est reporté, sine die, comme les élections générales. À qui profite la prolongation de cette transition?
Profite aux fauteurs de troubles, donc c'est-à-dire aux milices, aux anti-Balaka, aux Séléka, parce qu'on n'a pas couplé non plus les racines de cette violence. Qu'est-ce que c'est les ressources financières. Il y a des hommes qui sont sur le terrain, qui font des raquettes. Il y a la LRA qui est au sud-est. Vous avez les Séléka au nord-est. Vous avez au sud-ouest les anti-Balaka. Et tous ces gens-là mettent des barrages sur les routes.
Et les trésors de
Le trafic de diamants.
Les trésors de guerre de Bozizé
sont toujours là. La communauté internationale s'est plantée sur toute la ligne au départ. Et la France. La France, auréolée de son succès contre les djihadistes au Mali, pensait qu'en faisant survoler un peu quelques mirages sur la Centrafrique ou en annonçant avec des flonflons et des trompettes l'arrivée des forces françaises, tout le monde allait rentrer dans le rang. C'est pas le cas. Il y a un peu de guerre civile. C'est des milices, c'est des jeunesses instrumentalisées qui se bagarrent. C'est des forces d'interposition, de police, de gendarmerie qu'il aurait fallu faire. Et il faut faire un vrai travail de fond, aller dans les quartiers, aller sur le terrain, ce qui est très difficile hein, sur un territoire deux fois grand comme la France, avec 10 000 personnes et des facas qui sont où il n'y a pratiquement plus rien. Donc il y a vraiment à repenser toute la stratégie sur... sur ce pays.
On n'entend pas la position de l'Union africaine, ni encore moins celle de la communauté des États d'Afrique centrale.
Ou du médiateur congolais.
Oui,
c'est ce qui est très écœurant, parce que je pense que dans la situation centrafricaine, beaucoup de fonds devaient être mis à la disposition de l'État centrafricain, parce qu'aujourd'hui, c'est un État moribond. Nous sommes presque dans une
situation... Il y a eu un accompagnement de l'Angola, hein, tout de même. Hein.
Oui, c'est vrai. Tantôt l'Angola, quelquefois le Congo-Brazzaville, un peu plus, ce que nous apprenons aussi, quelquefois que c'est la Guinée qui vient un peu à la rescousse. Justement. Mais cela ne suffit pas. Ça devait être un problème auquel tout le monde devait s'impliquer. Pourquoi ? Aujourd'hui, nous voyons les Antilles, les ex-Séléka, qui sont musulmans. Mais c'est des gens, s'ils ne sont pas démobilisés... ils sont totalement à la merci de Boko Haram ou des terroristes qui sévissent partout en Afrique. Ils peuvent être récupérés. D'autre part, il y a aussi Bozizé qui tire les ficelles parce que nous apprenons quelquefois il est en Ouganda, quelquefois il est au Sud-Soudan. Bon, je pense qu'il faut une véritable table ronde. Le médiateur, qui est justement le président Sassou, devait convoquer une nouvelle table ronde des anti-Balaka, des Séléka.
En intégrant Bozizé et
Bozizé, justement, ils ne doivent pas être écartés. Parce que l'un des problèmes...
Je ne partage pas cet avis.
Non, je ne suis pas d'accord. Je veux dire, Bozizé fait l'objet de sanctions internationales. Je ne les invente pas.
Mais il est toujours pas arrêté.
Bozizé a une complicité criminelle dans ce qui s'est passé dans son pays. Et depuis que ce monsieur a été le collaborateur militaire le plus proche de Bokassa à l'époque, il a passé son temps à déstabiliser son pays. Encore une fois, je pense qu'à ce monsieur et à d'autres personnes qui déstabilisent ce pays, il faut leur opposer la justice internationale. Voilà.
Bon, entendu, justement, Pascal Hérault, la CPI qui menace d'imposer des sanctions aux auteurs des tensions en RCA. Pourquoi aujourd'hui Bozizé et Diotodia sont-ils encore en liberté?
Oui, effectivement, ils sont en liberté, mais tant que l'Ouganda, par exemple, n'exécute pas le mandat d'arrêt centrafricain, il peut couler des jours heureux. Il ne faut pas oublier que Uhuru Kenyatta, sur demande de Sassou Nguesso, a essayé de les remettre dans le jeu dernièrement. Quant à Diotodia, bon, il est au Bénin, ce n'est pas le plus dangereux, il est plutôt inoffensif. Il faut voir que ces groupes... que sont les anti-Balaka et les Séléka, c'est des groupes très hétérogènes. Il n'y a pas un chef qui les dirige. Il y a des tensions intérieures. D'ailleurs, on le voit quand Catherine Samba-Panza essaye de récupérer une frange des anti-Balaka pour les faire participer ou pour les reprendre dans l'administration, dans le gouvernement. Les autres têtes commencent à monter en volume et à demander elles aussi. C'est très, très, très complexe, la situation centrafricaine. Et la priorité, encore une fois, c'est réconciliation et désarmement.
À présent, le Congo, l'opposition, en s'inspirant de l'exemple burkinabé, entend faire barrage au projet de référendum visant à modifier la Constitution. Retour sur la manifestation tenue devant la Maison du Peuple de Brazzaville. Le reportage de Marie Valeray.
Ça suffit. Le message de l'opposition congolaise descendue dans la rue est clair. Dire non au coup d'État constitutionnel du président Sassou Nguesso.
Nous avons suivi à la télé le tour du Niger, le tour de l'Égypte, le tour de la Tunisie, le tour du Burkina Faso. Aujourd'hui, le tour du Congo est arrivé, il faut le comprendre.
Une mobilisation de masse après l'annonce par le chef d'État d'un référendum pour changer la Constitution. Son objectif, pouvoir briguer un troisième mandat, ce qui lui est impossible aujourd'hui. Revenu au pouvoir à l'issue de la guerre civile en 1997, Sassou Nguesso a été élu président en 2002 et réélu en 2009. À 72 ans, l'homme qui cumule 30 années de pouvoir ne compte pas lâcher les rênes.
Pour la paix, j'ose ici interpeller le président de la République. J'en appelle à son sens élevé de responsabilité. Je sollicite la sagesse du Kani, de ce chef coutumier qu'il est.
Dans les rues de Brazzaville, de nombreux commerces avaient fermé par prudence le temps de la manifestation. Un rassemblement d'ampleur. Selon la police, ils étaient 15 000 manifestants, 30 000 selon les organisateurs. La plus grande mobilisation depuis le retour de Sassou Nguesso au pouvoir.
Hassan Diop, la pression de la rue peut-elle amener Denis Sassou Nguesso à renoncer à son projet?
Bon, en tout cas, c'est ce qu'espèrent les organisateurs de ce rassemblement impressionnant. Premier rassemblement Sassoufi, avec ce jeu de mots, autour du nom de Sassou Nguesso et du mot Sufi. Oui, peut-être que beaucoup de Congolais semblent dire qu'effectivement, plus de 30 ans au pouvoir, ça suffit. Alors, le président Sassou Nguesso dit dans son discours du 22 septembre qu'il voulait faire évoluer les institutions. Alors, simplement, il n'a pas dit vers quoi ? Vers plus de liberté ? Vers plus de démocratie ? Vers plus de transparence sur l'utilisation des deniers publics ? Alors que dans la presse internationale, on apprend que sa famille la plus proche, la plus directe, a réalisé des travaux de l'équivalent de 6 millions d'euros dans des propriétés proches de Paris, alors que la moitié des Congolais vit sous le seuil de pauvreté. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Alors, vers quelle institution moderne Sassou Nguesso veut amener son pays, alors que la disposition de la constitution actuelle est claire, elle est verrouillée, on ne peut pas la faire sauter, on ne peut pas briguer au-delà de deux mandats, et il y a un plafond de l'âge, et ce sont là 72 ans, et ce sont là deux obstacles qui devraient dicter au président Sassou Nguesso de dire, voilà, 30 ans, ça suffit.
Avant de vous faire réagir, Pascal Hérault et Guy Millet-Bandy, je vous propose d'écouter Sassou Nguesso.
Ce débat, c'est celui portant sur l'évolution des institutions de notre République. Tout bien considéré, il se pose dans des termes simples, à savoir, faut-il changer ou non la constitution en vigueur dans notre pays ? Interpellé maintes fois par vous, mes chers compatriotes, j'ai appelé à des consultations républicaines.
Kimilex Bozzi, une réaction à ce discours
de Sassou Nguesso? Oui, une réaction, parce que le président parle de l'évolution des institutions. Je me pose bien la question de savoir depuis quand il s'intéresse à la bonne marche des institutions. Puisqu'au moment où je vous parle...
En tant que président de la République,
justement, au moment où je vous parle, même le conseil constitutionnel qu'il a consulté, et dans une situation irrégulière, c'est un conseil constitutionnel illégal aujourd'hui. Parce que la loi prévoit que le conseil constitutionnel soit révisé ou renouvelé 3 ans après, mais cela n'a jamais eu lieu. Hein? La Cour suprême qui l'a consulté, le président de la Cour suprême est lui-même dans une situation d'illégalité. Parce que la loi au niveau de la Cour suprême, donc le règlement intérieur, prévoit que le président de la Cour suprême ne peut pas avoir plus de 65 ans. Or, celui-là, il a largement dépassé l'âge requis. Est-ce que vous voyez ? Moi-même, j'ai fait l'objet d'une arrestation à l'époque parce que je suis patron aussi du journal La Voix du Peuple pour la simple raison que j'avais refusé d'obtempérer à une suspension du Conseil supérieur de la liberté de communication qui était en fin de mandat depuis 2009. Jusqu'en 2012, on n'avait jamais renouvelé ce Conseil supérieur. Et au moment où je vous parle, le Conseil supérieur est encore en fin de mandat parce que le mandat de 2012, qui est de 3 ans, est terminé, a pris fin le 25 juin 2015. Donc il ne s'est jamais préoccupé de l'évolution des institutions. En réalité, le président Sassou ne veut pas faire évoluer les institutions, mais il veut changer la constitution pour rempiler à la tête de l'État. Parce que s'il s'agissait de faire évoluer les institutions, il a l'article 86 qui lui donne ce moyen-là. Il peut prendre une loi organique et il procède à une révision de la constitution.
Sans passer par un référendum.
Tout à fait. On peut passer d'un régime présidentiel à semi-présidentiel.
Affaire à suivre. Nous avons une pensée toute spéciale pour nos confrères de l'Express. Un plan de sauvegarde de l'emploi prévoit le départ de 125 salariés. Nous pensons à eux très fort. Aujourd'hui, c'est la fin d'Afrique Presse. Merci à Hassan Diop de RFI, à Pascal Hérault de l'Opinion et à Guy Millet-Bandy de l'hebdomadaire congolais La Trompette. Vous pouvez retrouver l'émission sur les sites de TV5 Monde et de RFI. À la semaine prochaine.